VOA Afrique,
le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30, temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 11 juillet 2017. Morgane Guerriac en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, chef de Daesh, annoncée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Boko Haram a exécuté publiquement 8 villageois dans le nord-est du Nigeria. Et le Qatar et les États-Unis ont signé un mémorandum d'accord contre le financement du terrorisme. Retrouvez Yacouba Ouédraogo à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, chef de Daesh, confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette organisation basée à Londres a affirmé détenir des informations de hauts responsables du groupe État islamique, confirmant la mort de leur émir, Salwa Jafari.
Le directeur de l'Observatoire, Rami Abdrahman, a déclaré à l'AFP avoir reçu l'information sur la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi par de hauts responsables du groupe État islamique de la province syrienne de Deir Zor. La coalition internationale anti-djihadiste sous commandement américain dit ne pas être en mesure de confirmer. Le groupe État islamique non plus n'a pas confirmé ni démenti sur ses canaux habituels de communication. La Russie a affirmé le 22 juin avoir, selon une forte probabilité, tué Baghdadi dans une frappe aérienne le 28 mai près de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Mais cette information n'a jamais été confirmée par une autre source. Le chef du groupe djihadiste le plus redouté au monde n'a eu qu'une seule apparition publique connue, c'était en juillet 2014 à Mossoul, que ses combattants viennent de perdre dans le nord de l'Irak.
Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. L'organisation extrémiste a exécuté publiquement 8 villageois qui s'opposaient à l'application stricte de la charia, la loi islamique, selon une vidéo visionnée par l'AFP. En Côte d'Ivoire, deux leaders des anciens rebelles démobilisés, qui ont brièvement bloqué dimanche une entrée de Boaké, ont été inculpés et emprisonnés. Les précisions avec Ekiabadou.
Le président du groupe des démobilisés, Amadou Ouattara, et son porte-parole, Mekbe Diomandé, ont été inculpés de troubles à l'ordre public et manifestations non autorisées. Les anciens rebelles qui ne sont pas intégrés dans l'armée ivoirienne réclament des primes de 18 millions de francs CFA et ils sont près de 6 000. Dimanche, ils ont bloqué l'accès sud à la deuxième ville du pays. Amadou Ouattara et Mekbe Diomandé n'ont pas participé à cette manifestation et n'y étaient pas favorables. Le vice-président du groupe de démobilisés, Aboudou Diakité, a demandé la libération des deux leaders avec de sincères excuses. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs mutineries d'anciens rebelles devenus soldats qui ont fini par obtenir gain de cause et recevoir une prime de 12 millions de francs CFA.
Une ONG congolaise a exigé aujourd'hui la libération de deux militants opposés au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Ils sont détenus par l'armée congolaise depuis 3 semaines à Kinshasa. On fait le point avec Solange Nyamulisa.
L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, exige la libération de Jean-Marie Kalondji et de Silva Mikai, arrêtés le 23 juin par des forces armées de la RDC à Kinshasa. Ces deux militants âgés d'une vingtaine d'années préparaient une manifestation pour exiger la publication du calendrier électoral car ils sont opposés au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Dans une lettre adressée au ministre congolais de la Défense, l'ACAJ note qu'ils sont détenus au service de renseignement militaire et leur avocat ne sont pas autorisés à les voir. Pour rappel, M. Kalondji a été arrêté en 2015 et détenu pendant 7 mois, dont 4 au secret. Il a été libéré dans le cadre des mesures de décrispation prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce compromis prévoit l'organisation des élections avant la fin 2017, mais Corneille Nangaa, président de la CENI, vient de dire qu'il sera impossible d'organiser le scrutin avant la fin de l'année.
Et bilan décevant du programme Retrait des enfants de la rue au Sénégal. Human Rights Watch affirme que les chiffres restent alarmants un an après le lancement d'une vaste opération pour retirer des rues quelques 50 000 talibés qui sont des enfants mendiants, essentiellement des pensionnaires d'écoles coraniques. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. La Banque mondiale appelle la France à investir largement et massivement dans l'éducation en Afrique. Il n'y a pas de bonne raison pour qu'un pôle de grande école n'ouvre pas un campus quelque part en Afrique, estime la Banque mondiale, appelant les universités françaises à suivre l'exemple des écoles britanniques et américaines. Démographie galopante au Niger. Le taux de contraception a connu une légère augmentation de 5% en 2006 à 12%. La planification familiale demeure toutefois une préoccupation majeure, indique le gouvernement. Le Niger, qui a un taux de natalité très élevé, veut porter son taux de contraception à 50% d'ici 2010. Une mise en garde de Khartoum à Washington. Le Soudan pourrait retomber dans la guerre si les sanctions économiques américaines sont maintenues. Le président Donald Trump doit décider demain de la levée ou non des sanctions imposées en 1997 à cause du soutien présumé de Khartoum à des islamistes, dont l'ex-leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Libye, 4 personnes ont été tuées, dont au moins 2 civils, lors de combats entre des groupes rivaux à l'est de Tripoli. Selon le gouvernement, les affrontements ont lieu à Garabouli, à 60 km à l'est de la capitale. Et dans la région toujours, un navire affrété par des militants d'extrême droite est en route pour la Méditerranée pour lutter contre l'immigration clandestine au large de la Libye. L'opération Defend Europe, défendons l'Europe, est menacée par le réseau européen Génération Identitaire et en particulier ses antennes françaises, italiennes et allemandes. Le Qatar et les États-Unis ont signé un mémorandum d'accord contre le financement du terrorisme, ont annoncé les chefs de la diplomatie qatari et américain au moment où Doha est mise à l'index par ses voisins pour son soutien présumé aux groupes extrémistes. Nathalie Barge.
Aujourd'hui, le Qatar est le premier pays à signer avec les États-Unis un programme pour la lutte contre le financement du terrorisme, a déclaré à Doha Mohamed Ben Abderrahman Al Thani. Nous invitons les pays qui nous imposent un blocus à s'y joindre, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse avec son homologue américain Rex Tillerson, en visite à Doha, dans le cadre d'une médiation dans la crise qui oppose le Qatar à l'Arabie Saoudite et ses alliés. Le secrétaire d'État, qui a entamé sa tournée au Koweït, doit rencontrer mercredi à Djeddah ses homologues d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn et d'Égypte. Ces 4 pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha, accusant l'Émirat de soutenir des groupes extrémistes et de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran.
Les militaires américains disent avoir réussi le test d'un système d'interception de missiles, annonce faite alors que la Corée du Nord dit avoir réussi son premier lancement de missiles intercontinental. Et pour finir, l'ONU lance un appel à l'aide pour lutter contre l'épidémie de choléra qui sévit actuellement au Yémen, un pays ravagé par la guerre civile. Selon les Nations Unies, plus de 313 000 malades et 1 732 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie en avril. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voafrique.com. Allez, on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. Jacques Aristide, La Minute Éco.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a invité la Banque islamique de développement à relever ses décaissements qui se situent autour de 10%. Cette banque a octroyé depuis 2002 plus de 1 000 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire pour financer des projets d'infrastructure et dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. La compagnie aérienne Emirates a mis un terme à son partenariat avec son homologue angolaise, Taag, en raison d'un différend sur le rapport de ses recettes. Le transporteur aérien basé à Dubaï a également réduit le nombre de ses liaisons entre son hub et Luanda. Plusieurs compagnies aériennes se sont récemment plaintes de difficultés similaires dues au manque de devises étrangères en Angola, dont l'économie traverse une crise depuis la chute des cours du pétrole. Le chef de la diplomatie soudanaise a prévenu que son pays pourrait retomber dans la guerre si les sanctions économiques américaines sont maintenues à la
veille d'une décision du président Donald Trump sur cette question. Washington a imposé en 1997 des sanctions économiques au Soudan à cause de son soutien présumé à des islamistes, dont l'ex-leader d'Al-Qaïda Osama Ben Laden. L'ex-président américain Barack Obama avait décidé en janvier la levée partielle de ces sanctions avec une période probatoire qui se termine mercredi.
Un peu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Alors commençons par du cyclisme et de 4 pour Marcel Kittel au Tour de France 2017.
Tout à fait Morgane, décidément dans la course au maillot vert, Kittel a conforté sa position en tête en enlevant l'étape du jour. L'exclusion du Slovaque Peter Sagan, qui en était l'humiliable détenteur depuis 2012, puis l'abandon du champion de France Arnaud Démare lui ont ouvert la route. Marcel Kittel porte ainsi à 13 son total de victoires d'étape dans le Tour, le plus élevé pour l'Allemagne, toute génération confondue. Le record était détenu jusqu'à cette édition par Eric Zabel, la référence du sprint allemand qui a ramené 6 maillots verts entre 1996 et 2001. Mais pour l'heure, Chris Froome conserve son maillot jaune.
Paris et Los Angeles assurés d'organiser les Jeux Olympiques 2014 pour l'un et 2028 pour l'autre. 2024, pardon. 2024 et 2028.
Tout à fait. Le Comité international olympique, CIO, a décidé d'attribuer en même temps les Jeux d'été 2024 et 2028, le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou. Les membres du CIO ont voté cette réforme qui permettra à Paris et à Los Angeles, les deux villes candidates, d'organiser à tour de rôle les JO. Ils ont opté pour des négociations permettant à la ville écartée pour les Jeux de 2024 d'accueillir l'édition de 2028.
Transfert, Gaël à Amiens, Albri au FC Metz.
Oui, le jeune milieu offensif gambien de Génération Foot en première division sénégalaise, Abli Diallo, a signé un contrat de 5 ans avec le FC Metz en France. Le milieu de 18 ans a été sacré champion il y a quelques semaines avec Génération Foot. Le milieu offensif international congolais Gaël Kakuta, lui, 26 ans, a signé avec Amiens pour 4 saisons internationales françaises dans les catégories jeunes et en espoir. Kakuta a opté en 2017 pour la sélection des Léopards de la RDC, avec laquelle il compte 2 caps et 1 but.
Alors, puisqu'on a le temps, hein, peut-être pourriez-vous nous dire votre sport préféré ?
J'adore le foot.
Le foot, et vous, j'adore le foot. Vous pratiquez ?
Si, j'ai joué au foot quand j'étais petit. Et puis bon, voilà, après j'ai abandonné suite à une petite fracture à la main. Bon, on me dit, tu joues plus au foot, c'est fini. Et donc, je me suis concentré sur les études, mais j'adore le foot.
Ah bah, c'est l'histoire de beaucoup d'amateurs de foot, hein, j'ai l'impression. La petite blessure qui ruine tout.
Oui, et vous savez que le football est très populaire en Afrique, très très populaire. Et donc, ça se joue partout. C'est aussi la facilité qu'offre le football. C'est pas comme le basket, il faut avoir un plateau, bien faire le foot dans la rue, sur la route, on peut le jouer. Donc, ce qui fait que tous les gamins, bien sûr, rêvent de jouer au foot. Et surtout avec ces stars d'aujourd'hui, Lionel Messi, Ronaldo.
Ça donne envie.
Bien, des gens peut-être qu'on n'a jamais vu physiquement, mais on arrête.
Et puis, maintenant que vous êtes aux États-Unis, il y a peut-être un sport américain qui vous passionne ?
J'adore bien le basket avec la NBA également, mais passionné pas trop. Pas comme le foot.
Non, et football américain, pas du tout ?
Non, football américain, pas du tout. On ne connaît pas cela en Afrique.
Ouais, et puis, vous n'y comprenez rien peut-être ?
Certainement.
Mais écoutez, merci. Merci Yacouba. Et puis, on se revoit demain.
Tout à fait. Merci à vous et bonne suite des journaux.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et de retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Sénégal, Human Rights Watch et des organisations locales, la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme, dénoncent l'insuffisance des efforts du gouvernement à mettre fin à la mendicité forcée et l'absence de répression envers les écoles coraniques qui envoient les enfants mendier dans les rues. Entre juin 2016 et mars 2017, près de 1550 enfants ont été tout de même retirés de la rue. Eric Menirakiza a joint à New York le chercheur de Human Rights Watch, Jim Warmington.
C'est bien d'éviter le mot échec parce que c'est une campagne qui a démontré la volonté du gouvernement du Sénégal de s'attaquer à ce problème de la mendicité des enfants. La campagne a beaucoup focalisé sur la nécessité d'une rééducation et une resocialisation des familles et des écoles coraniques qui sont à la base de ce problème de la mendicité forcée, mais a presque ignoré complètement l'aspect d'enquête, de poursuite et de sanctions. Les maîtres coraniques, les écoles coraniques qui envoient les enfants talabis dans la rue pour les forcer à mendier n'ont pas du tout été poursuivis ou sanctionnés pour le fait qu'ils exploitent les enfants dans cette façon. Et ce qu'on a vu en fait, c'est quand il y a les abus physiques ou sexuels, les cas isolés, des poursuites contre les maîtres de ces écoles coraniques. Donc c'est pour nous l'essentiel défi qui reste pour le gouvernement du Sénégal. C'est d'assurer que l'approche actuelle soit combinée avec une approche de poursuite et de sanctions.
Au-delà des sanctions, le retrait de ces enfants de la rue demande beaucoup de moyens. Est-ce que le gouvernement sénégalais en a les capacités requises?
D'abord, je ne suis pas trop sûr que ça nécessite beaucoup de moyens. Malheureusement, le fait que les maîtres coraniques n'ont pas vu qu'en réalité, ils seraient sujets des enquêtes et des poursuites, on fait que, au fur et à mesure, la pratique s'est rétablie jusqu'à ce que on arrive à un moment maintenant où il est presque au même niveau qu'avant le début du programme.
Vous interpellez les futurs députés à mettre fin à cette situation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement?
L'Assemblée nationale peut bien sûr jouer son rôle démocratique, de demander et d'exiger au gouvernement qu'il fasse une approche plus compréhensive, plus bien réfléchie que le gouvernement a fait pour la première année de ce programme. Et deuxièmement, s'il y a une soutien financier qui est nécessaire et si ça se manifeste par une loi pour réglementer les écoles coraniques, ce qu'on appelle les DARA, ce qui est aussi un aspect fondamental d'une stratégie contre ce programme, et de soutenir le passage de cette loi. Mais seulement après, l'Assemblée s'est assurée que tous les aspects nécessaires de la loi sont en place.
Jim Warmington, chercheur à Human Rights Watch à New York.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Un scrutin avec un nombre record de candidats. Alors que la diaspora sera représentée pour la première fois au Parlement, comment se déroule la campagne? Les nombreuses candidatures risquent-elles de peser sur le déroulement du scrutin? Quid du retour de l'ancien président Wad? Que signifiera l'issue du vote pour la présidentielle de 2019? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, un rapport de la commission du Conseil supérieur de la magistrature met en cause 37 magistrats qui ont monnayé leur service. Dans la foulée, les magistrats ont adopté un nouveau code de déontologie et d'éthique. Pour en savoir davantage, Yacouba Ouédraogo a joint Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les 37 magistrats épinglés dans le rapport ne sont pas tous accusés d'avoir monnayé leur service au niveau de la justice, parce qu'il y a d'autres types d'infractions pour lesquelles ces personnes sont certainement poursuivies. Le rapport a été remis officiellement au Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est lui qui a demandé et mis en place une commission chargée de mener l'enquête sur les manquements commis par les magistrats dans le cadre de leur service. Donc ce rapport est revenu naturellement au Conseil supérieur de la magistrature et a décidé de la remise de copie au président du Faso en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et au ministre de la Justice.
Dans la foulée, vous vous êtes doté d'un nouveau code de déontologie. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau?
L'adoption de ce code de déontologie contribuera à restaurer la confiance du justiciable dans les décisions de la justice et de leur faire comprendre ou du moins de montrer la transparence des conditions qui guident le magistrat ou le juge dans sa prise de décision et puis de permettre au justiciable également de comprendre que même au sein de sa juridiction, le magistrat est tenu de certaines devoirs d'éthique et de déontologie dans la mission que lui a confiée la Constitution.
Une chose est d'adopter un code d'éthique et de déontologie, une autre chose est de le faire respecter. Pensez-vous en avoir les moyens?
Le caractère de ce code, déjà, caractère contraignant, implique le fait que la violation des dispositions contenues là-dedans est passible de sanctions disciplinaires. Déjà, ça, il faut comprendre que c'est un caractère dissuasif. Et puis, en plus, cela permettra aux justiciables de savoir également les situations dans lesquelles le magistrat ne respecte pas sa déontologie, parce que ce code va être rendu public, va être mis à la disposition de tous, et permettra aux justiciables de se plaindre au cas où il estime que les dispositions du code de déontologie, qui sont désormais contraignantes, ont été violées par un magistrat en fonction.
Est-ce à dire que si un citoyen estime que le magistrat, peut-être en rendant une décision donnée, a violé ce code de déontologie et d'éthique, ce citoyen-là pourra poursuivre le magistrat en question?
Le justiciable a la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature et lorsqu'elle estime qu'elle a été violée dans ses droits par des attitudes qu'il a considérées comme étant des manquements de la part des magistrats.
Et Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, l'après Paul Biya se prépare et un jeune, Cabral Libi, a décidé de lancer ce qu'il appelle l'opération 11 millions d'inscriptions. L'initiative vise à inciter les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. L'opération attire sympathie et inimité à son promoteur. Joint par John Lindon, Cabral Libi, promoteur de l'opération 11 millions d'inscriptions et qui se trouve ici même à Washington.
Deux choses ou deux motivations. La première, combler un déficit d'intéressement des populations à la chose politique, puisque nous sommes à un an pratiquement de 4 scrutins au Cameroun. Pourtant, il n'y avait, selon les chiffres officiels donnés par l'organisme qui organise les élections et l'ECAM au Cameroun, que 6,5 millions d'inscrits en décembre 2016. Alors que la refonte du fichier électoral a commencé en 2012 et la dernière élection présidentielle c'était en 2011, les derniers législatives c'était 2013 et en 2011 il y avait 7,5 millions d'inscrits. Donc 6 ans plus tard nous serions à 1 million de moins alors que la population elle a augmenté de plus du quart. Ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est l'impératif de mobilisation des masses pour l'alternance au Cameroun. Je l'ai toujours dit, on a un système vieux de 35 ans et la désaffection populaire est en partie justificative de cette perpétuité d'un système qui a échoué en plusieurs points.
Vous parlez d'un système vieux de plus de 35 ans. À votre avis, cette opération 11 millions d'inscriptions peut-elle vraiment faire tomber le président Biya, qui est au pouvoir depuis 3 décennies au moins et qui contrôle quasiment tout au Cameroun?
D'abord, nous le savons tous en matière politique, que de boulonner un système aussi vieux que celui-là, ce n'est pas chose facile. L'élection demeure, de mon point de vue, la seule modalité susceptible de renverser un tel système. Moi, j'y crois.
Cabral Libi sera-t-il candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun?
Cela se pourrait, mais je l'ai toujours dit, on n'en est pas encore là. Moi, je me suis senti honoré, et c'est d'ailleurs toujours le cas, d'être le choix de mes compatriotes. J'ai appelé ça l'appel authentique du peuple, en contre-pied à ces appels montés que nous connaissons au Cameroun, qui sont généralement adressés au président Paul Biya, qui, je le rappelle, a 85 ans déjà. Je me suis senti honoré par cet appel authentique de mes compatriotes, et je leur ai dit, d'accord, si vous voulez que je sois candidat, certainement vous voulez m'élire le moment venu. Mais comment m'éliriez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit sur les listes électorales?
Qu'est-ce qui justifie votre séjour ici et comment ça se passe?
Je suis aux États-Unis, ça se passe plutôt bien, et je suis là pour répondre rapidement à votre question, pour sensibiliser mes compatriotes de l'étranger. Eux aussi, ils ont leur mot à dire.
Cabral Libi, promoteur de l'opération 11 millions d'inscriptions. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur notre site internet voafrique.com.
À votre avis, ce soir à 18h, temps universel sur VOA Afrique, la colère des députés au Kenya, ils refusent la baisse.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, plus de 1000 maisons ont été détruites depuis une semaine par la brigade de démolition de la mairie de Lubumbashi. L'opération concerne des maisons construites anarchiquement autour de la piste d'un aéroport international, nous dit notre correspondant Narval Mabila.
C'est depuis 4h du matin de ce mardi 11 juillet que la résidence d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza est encerclée par la police sans explication officielle. Antoine Gabriel, inquiet et serein, nous explique la situation autour de sa résidence.
Ils sont là depuis 4h du matin, je ne sais pas, je me demande moi-même pourquoi, parce que moi je ne m'appelle pas Nanga. Les responsables en place croient que nous allons organiser une marche de protestation et tout, et nous sommes en train de tenir des réunions. Ce qui sait, je ne comprends plus rien. Ils n'empêchent pas les gens de passer, mais ils sont là, très menaçants, et autour de ma maison. Il n'y a rien d'autre, c'est la déclaration des Nanga. Ils sont conscients que la population est très mauvaise humeur et que la population ne va pas accepter cette provocation. Je disais, malheureusement pour eux, c'est pas moi qui avais proclamé l'indépendance du Katanga le 11 juillet 1960, c'est pas moi. Mais ça, c'est une espèce d'alibi, c'est faux, c'est autour de la déclaration malencontreuse des Nanga qui a mis mal à l'aise, qui a irrité toute la population.
Du côté de la police, la réponse est simple. Les déploiements de la police est dû à la prévention des événements qui lient la date du 11 juillet, jour de la proclamation de l'indépendance du Katanga. Colonel Eddy.
C'est une date qu'on considère comme étant la date de la sécession katangaise. Pour les nostalgiques, nous sommes la police. Nous sommes une police non seulement en amont, n'est-ce pas, rétablir l'ordre public quand cet ordre est troublé. En aval également, nous pouvons aussi faire un effort pour que, au lieu que les événements nous surprennent, nous prenons l'avance sur les événements. Donc, nous prévenons. C'est ce qui a expliqué le déploiement des forces de l'ordre de sécurité ce matin. Donc, qui n'ont rien à voir avec Meshitou. Donc, c'est dans le cadre peut-être de nos tâches traditionnelles et ordinaires. Il n'y a rien dans la ville. La ville est calme et chacun est en train d'évacuer ses occupations.
Une équipe de la MONUSCO est allée rendre visite à Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza pour faire son constat. Officiellement, la ville est calme. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Diaziek. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.